Notez que cette émission a été enregistrée lors de la diffusion en direct de la série sur la santé consciente.
Bonjour, bienvenue dans mon salon santé consciente. Ça fait une longue phrase, hein, mon salon santé consciente, mais finalement, c'est salon santé consciente, le concept. Puis puisque c'est dans mon salon, ben on rajoute, là, tu sais, dans mon. Alors, bienvenue dans mon salon santé consciente ce midi avec Jean-Charles Chabot, hypnologue. Salut Jean-Charles, comment vas-tu?
Ça va très bien, France, merci.
D'abord, je vais commencer par présenter ton nouveau livre, ton bébé, Le potentiel insoupçonné de l'hypnose spirituelle. Et ça a été fait avec Isabelle Edlin, qui est une psychanalyste française. Donc, elle pratique en France. Mais elle avait aussi, si je comprends bien, été ton élève à une certaine époque parce que tu as fondé l'Institut international d'hypnose spirituelle il y a plusieurs années.
C'est ça, effectivement. Elle a suivi notre parcours, puis elle, en fait, elle a pris ça. Puis elle a suivi jusqu'au bout, jusqu'au maître prêtre. Après ça, elle a pris les enseignements, puis elle a pratiqué avec tous ses patients qui étaient ouverts à la spiritualité. Et elle a vraiment développé et amélioré le processus. Et elle a découvert que même en utilisant ce processus-là, aussi des études de cas, des personnes, des récits de transformation qui montrent vraiment comment que les personnes peuvent se transformer à l'aide de cette approche-là. Donc, je suis vraiment très heureux de ça.
Écoute, c'est fantastique parce que c'est exactement ce qu'il fallait, je crois, pour amener ça à un autre niveau, l'hypnose spirituelle, c'est-à-dire des praticiens, des gens qui sont dans une pratique reconnue comme des psychanalystes, utilisent l'hypnose spirituelle dans leur pratique pour changer la donne. Alors, on remercie Isabelle Edlin, qui sera peut-être mon invitée éventuellement. Oui. Mais pour l'instant, Jean-Charles, on va commencer par mettre la table. Tu sais, on va parler de l'hypnose spirituelle. D'abord, qu'est-ce que vous entendez, vous autres, par spirituel? Puis après ça, on va aller voir ce que fait l'hypnose spirituelle.
Ouais, ben quand on parle d'hypnose spirituelle, on parle de vraiment la dimension de l'âme, tu sais, le fait que on parle de l'existence de la réincarnation, le fait que quand on s'incarne sur Terre, on a un contrat d'âme, on vient faire certains apprentissages, et donc c'est un petit peu cette vision-là qu'il y a des guides avec lesquels on peut contacter, recevoir des conseils qui peuvent nous aider à faire des prises de conscience qui changent notre vie. C'est un petit peu même le centre de notre approche, en fait, la personne puisse faire des prises de conscience qui sortent la personne du petit moi pour connecter avec un point de vue plus élevé qui fait en sorte que la personne, quand elle ressent ça dans son cœur, naturellement, ça stimule des changements dans sa vie. Donc, c'est pour ça que quand on parle de spiritualité, quand on pose la question, moi, je dis, c'est tous les principes de base en spiritualité qui sont le plus reconnus par les médiums, les expérienceurs de mort imminente. T'sais, le fait qu'on ait des âmes, qu'on s'incarne sur Terre pour évoluer, il y a des guides, on peut connecter avec des défunts parfois, puis on prend vraiment cette base-là que même Christophe Fauré, qui a même les vies antérieures, scientifiquement, il y a même des appuis.
Hein, Christophe Fauré, c'est un philosophe, hein?
C'est un psychiatre français qui est spécialisé dans l'accompagnement de fin de vie et qui, à mon sens, a écrit un des meilleurs livres pour montrer la dimension scientifique de ce paradigme spirituel-là. Qu'est-ce qu'on connaît par rapport à tout ça? Bref.
OK, ben ça explique mieux. Moi, je l'ai utilisé puis je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. Alors, si on résume tout ça, dans le fond, parce que avant même qu'on se connaisse, parce que Jean-Charles et moi, on se connaît depuis très longtemps, avant même qu'on se connaisse, moi, j'avais commencé à faire des recherches dans les années 2000. J'avais lu tous les livres de Michael Newton, entre autres, de Dolores Cannon, qui étaient des thérapeutes qui utilisaient l'hypnose et qui, Dolores Cannon, dans son cas, c'était très intéressant parce qu'elle faisait ça sur une base de l'armée américaine, puis en faisant de l'hypnose avec ses patients, ils se sont mis à basculer dans d'autres espaces-temps. Là, on vient de voir ton minou passer. Alors, quand tu passes dans d'autres espaces-temps, bien là, ça peut être une vie antérieure, ce qu'on appelle une vie antérieure, ou en tout cas une autre ligne de temps où est-ce qu'on était, on a vécu une expérience. Ça peut être entre les deux vies. Ça, c'était Michael Newton, il me semble. Exactement. Là, ça va me ramener, même sans Michael Newton, c'était les entre-deux-vies. Puis, on peut extrapoler, en fait, ce que ça fait, l'hypnose spirituelle. Puis là, corrige-moi si je me trompe, c'est que ça nous amène dans un état altéré. Ou est-ce que là, on a accès à tout le grand plan, d'une certaine façon?
Ou est-ce qu'il est juste d'avoir accès?
Oui, c'est ça.
On est en état expansé de conscience. Puis, souvent, j'appelle l'intelligence sage, que ce soit le moi supérieur, que ce soit les guides, peu importe, c'est pas important. Mais va tout le temps guider la science puis donner accès à ce que la personne a besoin de savoir, de comprendre pour évoluer. Parce que cette intelligence-là sait pourquoi on est ici, elle connaît notre contrat d'âme, elle connaît c'est quoi notre prochaine étape de croissance, donc elle va toujours nous diriger vers ce qui est juste pour nous aider à grandir, en fait.
OK. Alors, on va donner des exemples. Moi, je vais donner un des miens. T'en donneras un des tiens, si tu veux, ou ceux qui se retrouvent dans le livre. Mais moi, ça m'est arrivé pas juste en hypnose. En fait, en hypnose, j'ai vécu certaines expériences de régression, dont une qui m'a vraiment aidée à comprendre des patterns que j'avais, et ça a été assez marquant, en fait. Mais j'ai surtout revécu en hypnose, et ça, tu vas me dire si c'est souvent le cas, mais des morts violentes dans d'autres espaces-temps, donc dans d'autres vies où est-ce que ça a été marquant mon départ, notamment d'avoir été enterrée vivante. Souvent, je disais en conférence pour niaiser, mais tu sais, c'était plus un running gag. Là, moi, je suis morte enterrée vivante, décapitée, crucifiée, name it, je les ai toutes vécues. Alors, c'est pas super intéressant à les revivre. Quel est l'intérêt selon toi? Je continuerai mon histoire après.
Ben, en fait, il se passe qu'il y a besoin de se passer. Fait que, tu sais, si tu réaccèdes à ça, c'est parce qu'il y a quelque chose, une partie de toi qui a besoin de comprendre ou d'apprendre quelque chose comme ça. D'autres personnes, ça ne sera pas nécessairement le cas. C'est intéressant de passer à travers la mort, mais ce n'est pas toujours des morts violentes. Fait que je ne sais pas si dans ton cas, si tu faisais une séance, il y a une raison derrière de ça pour laquelle on te donne accès à ça. Fait que c'est vraiment du cas par cas.
Écoute, la première fois, là, c'était dans un salon du livre avec une thérapeute belge, je crois, ou suisse, une thérapeute suisse qui était à côté de moi au salon du livre de Montréal. Puis je me suis dit, je vais aller l'essayer, ton affaire. Ça, c'était dans les années 2000. Je suis rentrée dans sa chambre d'hôtel. Pendant 1 heure et quart, j'ai eu l'impression que ça a duré 5 minutes et je me croyais non hypnotisable. Je pensais pas que je serais capable de me laisser aller comme ça. Puis finalement, là, ben écoute, elle m'a amenée dans un espace que je ne croyais pas possible, mais je me suis vue sur la croix. Et là, j'ai eu l'impression, tout de suite, ma pensée s'est emballée et je me suis dit, oh mon Dieu, est-ce que je suis à côté de Jésus? Et finalement, j'ai réalisé que la raison pour laquelle je revivais ça, entre autres, c'était pour comprendre que quand on est en état d'hypnose, on est vraiment comme à deux niveaux. Notre pensée rationnelle peut entrecouper les images qui se déroulent, mais ça n'arrête pas le film. Le film continuait, puis là, je me voyais me retourner la tête, puis non, finalement, c'était pas Jésus. C'était très intéressant comme expérience, simplement pour me faire comprendre le processus d'être à deux niveaux entre mon conscient là, tu sais, mon conscient connu et mon inconscient, ce qui a été logé dans mon inconscient de toutes ces expériences-là.
Exact. Ce que tu mentionnes, c'est vraiment très vrai. Puis c'est souvent une méconception que les gens ont. Les gens pensent qu'ils vont être partis, qu'ils sont plus là, puis que là, qu'ils vont se réveiller, puis que tout était oublié. On a une partie qui demeure là, mais plus qu'on reste dans cette posture plus d'observateur, si on lui donne trop de la parole, tu sais, ça dit, bien, j'ai-tu vu ça d'un film, blablabla, c'est là que ça stimule des ondes de bêta, et là, c'est là que ça, la personne sort. Mais si on fait juste être, on observe, puis on donne plus la partie à qu'est-ce qui se passe, puis développer ça, c'est là qu'on s'absorbe davantage dans l'expérience.
OK, alors donne-moi des exemples qui sont, entre autres, dans le livre de gens qui ont vu leur vie transformée avec l'hypnose spirituelle.
Oui, bien, un exemple qu'on détaille dans le livre et que j'en parle aussi quand je fais un webinaire, puis que pour moi, c'est un bon exemple à plein de niveaux, c'est qu'en hypnose spirituelle...
je vais faire ta Vanna White.
Oui. The Price is Right. Une chose qu'on a remarqué souvent, c'est qu'il y a des personnes qui ont des transformations parfois en une séance qui parfois peuvent prendre des mois, voire même des années en thérapie conventionnelle. C'est des choses qu'Isabelle avait remarquées. Puis tu sais, ça paraît être une grosse, comment on dit ça en français, une claim, une grosse affirmation, je ne sais pas comment on dit.
Oui, c'est ça, une grosse affirmation.
Oui, c'est ça. Mais c'est vrai, c'est pas de la bullshit, c'est vraiment vrai. Puis la façon que ça se passe et pourquoi ça se passe, je vais donner un exemple dans le livre, c'est une femme... je pense qu'elle avait 22 ans à ce moment-là. Elle avait des problèmes avec son père. Toute sa vie, elle l'aimait pas. Il y avait pas le courant passait pas. Elle lui en voulait pour plein de raisons. Et puis là, elle fait une rencontre d'hypnose. Et là, les guides lui donnent accès à certaines vies antérieures en lien avec son père. Fait que là, elle découvre que son père était dans sa famille d'armes, ce qu'elle aurait été très loin de se douter parce que c'était souvent, tu sais, quelqu'un qu'elle aime pas dans sa vie. Et là, elle a découvert qu'elle s'incarnait souvent avec cette âme-là, puis c'était souvent des incarnations difficiles, mais qui s'aidaient à grandir. Fait que déjà, quand elle a connecté avec ça, ça a été comme, c'est la surprise. Ah, ben voyons donc. Puis après ça, elle a pu connecter avec l'âme de son père. Ça aussi, c'est quelque chose que les gens souvent ne savent pas. On n'est pas obligé que la personne soit décédée. Il y a une partie de nous, absolument, de notre âme qui est de l'autre côté quand même. Absolument. Et elle est connectée.
C'est l'énergie, l'âme. L'âme et l'esprit.
Ben oui.
On pourra définir ça après. Tu vois ce que tu appelles l'âme. Moi, j'appelle ça le duo âme-esprit. Là, mais ouais. Oui, c'est l'énergie, c'est notre fréquence.
C'est ça. Et elle a connecté d'âme à âme avec son père. Elle a ressenti l'amour. Elle a ressenti qu'est-ce qui était venu apprendre dans cette vie. Et cette expérience-là a complètement neutralisé, dissipé toute sa colère. Il y avait, puis elle a compris vraiment les raisons de l'incarnation. Puis le jour d'après, elle a pris contact avec son père. Ils se sont rencontrés. Ils ont soupé ensemble. Depuis ce temps-là, ça se passe bien. Wow. Et ça a été vraiment... Puis comme elle l'explique parce que j'ai fait une petite entrevue avec elle, puis elle explique en vidéo aussi, puis elle dit que ce n'est pas juste une prise de conscience mentale, c'est qu'elle le ressent dans le cœur.
Exactement. C'est guérison profonde au niveau du corps, parce que le corps a ses mémoires, et les mémoires se réveillent quand on est en lien avec des gens avec qui on a eu des expériences troublantes dans le passé, que ce soit dans le passé de cette vie-ci ou que ce soit dans le passé de d'autres vies, les mémoires se réveillent. Écoute, c'est le fun que tu comptes ça parce que j'ai compté longtemps quelque chose de très similaire en conférence. L'histoire de... En fait, j'avais pas une thérapeute, mais quelqu'un qui m'enseignait, comment ça s'appelle, le cours en miracle. Alors, le cours en miracle, c'est une brique là, écrite par des psychologues britanniques, je pense, qui ont canalisé l'information, peu importe. Mais la psychologue qui enseignait ça, elle avait vécu... là, il y a de la musique qui joue chez vous.
Je vais essayer de...
Okay. Alors, cette psychologue-là avait des patients, puis bien malgré elle, sans avoir connu l'approche de l'hypnose spirituelle, certains de ses patients se sont mis à basculer dans d'autres espaces-temps, puis elle a, comme Dolores Cannon, découvert l'existence des vies antérieures de cette façon-là. Et elle avait un jeune homme qui la consultait justement pour des raisons similaires, qui était très en colère contre son père. Il n'arrivait pas à pardonner à son père d'avoir été abusif dans sa jeunesse. Et en basculant dans une autre vie, il a réalisé qu'il était le père de son père dans une autre vie. Donc, lui était le père était l'enfant, et qu'il avait beaucoup abusé physiquement, c'est-à-dire qu'il le battait. Et ça lui a permis de faire, de pardonner, mais vraiment un pardon, au-dessus du pardon, là, on appelle ça la rédemption, de vivre une rédemption spontanée, puis d'aller demander pardon à son père. Il est allé demander pardon à son père pour ce qu'ils avaient vécu ensemble dans d'autres existences pour pouvoir se réconcilier dans celle-ci. Ça m'a tellement émue, cette histoire-là, que je l'ai racontée longtemps, puis là, tu me confirmes que c'est... Il y en a plein d'autres. Hop, je t'entends plus, là, t'as fermé ton son, Jean-Charles, pour couper le train.
T'as raison, là, le train est passé. Ben oui, effectivement, il y en a beaucoup de ce type d'expérience-là, puis c'est pour ça que le bijou de ce type d'approche-là, c'est vraiment l'accès au contrat d'âme d'une certaine façon ou au lien d'âme et qui redonne du sens. C'est comme une sorte de recadrage, mais du point de vue de la partie la plus élevée. Et c'est ça qui stimule des transformations. Puis comme tu mentionnais, tu sais, ça se passe souvent même de façon spontanée. C'est pour ça, tu sais, quand tu parlais de Newton, mais même chose, Brian Weiss et d'autres, souvent, c'est des personnes qui croyaient même pas que ça se pouvait. Tu sais, souvent, les sceptiques disent, ah, ben, c'est les croyances des personnes, ils créent ce qu'ils veulent. Mais on a des situations que ça se passe spontanément quand le praticien n'y croit pas, puis le sujet n'y croit pas. Puis là, la personne est dans une hypnose normale, puis il se passe de quoi? Puis là, la personne se retrouve dans une vie antérieure, puis elle dit « qu'est-ce que c'est ça? » Puis là, fait que ce n'est pas que le produit des croyances d'une personne.
Toi, est-ce que tu as vécu des exemples de tout ça avant de te lancer dans l'hypnose spirituelle?
Moi, ça a été particulier, et ça, je pourrais t'en parler longtemps. Je vais essayer de faire un résumé.
On a le temps.
Oui, mettons, on a le temps. Ben, en fait, moi, c'est quand j'ai lu le livre de Newton, c'est là que ça a parti. Moi, ça a fait un déclic parce que moi, je voulais aider les gens avec la spiritualité, mais je savais pas comment. Tu sais, moi, j'avais un background, j'étais en Chine à ce moment-là, j'enseignais des cours de communication, d'intelligence émotionnelle. Je faisais du développement personnel, ça me faisait triper, mais il manquait de quoi, tu sais. Puis là, quand j'ai lu Newton, ça a fait « Ah oui, là, je peux aider les gens, mais sans être un enseignant spirituel ». Ce que je me disais, c'est pas parce que j'ai bien lu des livres en spiritualité que ça fait de moi un enseignant. Fait que bref, j'ai étudié Newton, là ça a résonné en moi, j'ai suivi des formations, j'ai même pratiqué avant même de suivre la formation, je testais avec des personnes un petit peu en Chine, j'ai suivi une formation, bref, je fais ce cours. Puis par la suite, fait que j'ai commencé à faire des séances, mais moi, à la base, je ne suis pas un bon sujet d'hypnose. Il y en a qui ont des prédispositions. Puis moi, j'essayais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ça n'avait pas marché. Puis moi, j'aimais ça. Puis là, je me suis dit, mais là, il faut que je vive l'expérience un moment donné. Tu sais, je veux dire, un moment donné, je vais passer à la télé, je vais passer à la radio, on va me poser la question que tu viens me poser là. Puis je vais dire, je peux pas dire, ben ça marche super bien, mais pas pour moi, tu sais. Fait que là, je fais une formation, c'est avec Linda Bachman à ce moment-là, puis j'ai dit, écoute, Linda, peux-tu être pas trop loin, si jamais ça marche pas, peux-tu m'aider? Fait que là, Linda a dit, OK, fait que là, on fait le truc, puis honnêtement, France, je pensais pas que ça allait marcher, mais, tu sais, je suivais les instructions, je faisais du mieux que je pouvais. Fait que là, on arrive dans la vie antérieure, puis là, on me pose des questions, bon, est-ce que c'est le jour, le soir, la nuit? Comme d'habitude, je percevais rien. Tu sais, j'étais là. Fait que là, puis là, je dis, bon, ben, je vais jouer le jeu. Si j'avais à choisir, ça serait quoi que je dirais? Puis là, je dirais, ah, OK, le jour. Mais c'était très vague, mais j'y allais avec ce qui me semblait le plus intuitif, tu sais, ce qui pourrait être. OK, est-ce que t'es dehors ou à l'extérieur ou à l'intérieur?
Là, on va juste faire une petite parenthèse ici. Là, ça, ce sont les suggestions du thérapeute. Quand on
oui, c'est les réponse, questions que le thérapeute pose au début d'une session pour que la personne puisse savoir qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on veut définir un petit peu l'environnement. Fait qu'on pose, es-tu à l'intérieur, à l'extérieur? Est-ce que tu es debout, assis, couché? Est-ce que c'est seul avec d'autres? Fait qu'on pose des petites questions comme ça. Puis là, je commençais à répondre. Puis là, à un moment donné, l'information venait, mais de façon très claire. J'avais toujours pas de perception, mais j'avais l'impression de savoir, tu sais, comme... Tu sais quelque chose sans savoir pourquoi tu le sais, mais tu le sais.
Oui, ça, c'est une perception, exactement.
Oui, c'est une perception, effectivement. Puis là, j'ai commencé à mentionner ça. Puis là, à un moment donné, là, j'ai commencé à avoir un visuel. Je me suis perçu. J'avais une barbe brune. Je commençais à... Puis je boitais. Puis j'avais pas mal, mais je savais que j'étais un messager qui allait porter un message à une femme que son mari était mort à la guerre. Tu sais, je savais. Puis je savais j'étais en France, qu'il y avait un château de l'autre côté d'une montagne, mais je le voyais pas, mais je le savais, tu sais. Fait que là, ça a été intéressant comme expérience. Puis là, quand j'arrive dans l'entrevue, pour connaître, parce que souvent, on commence avec une vie antérieure, puis après ça, on amène la personne à la toute dernière respiration, puis qu'est-ce qui se passe après?
Alors là aussi, on va faire une parenthèse. Oui. L'entrevue, là, il n'y a pas de temps à l'autre côté quand même. Exact. Il faut préciser ça. On peut se réincarner après 3 jours ou après 3 000 ans. Il n'y a pas de temps de l'autre côté. Sauf que l'entrevue, c'est comme un espace où est-ce qu'on va poursuivre une partie de notre parcours qu'on a vécu sur Terre, puis on va se préparer à la prochaine. Fait que c'est intéressant aussi d'aller dans cet espace-là pour comprendre qu'est-ce qu'on a préparé des fois. Hein?
Ben oui.
C'est quoi notre plan de match?
Effectivement. Et parce qu'il n'y a pas de temps, quand on connecte, on n'est pas juste dans comme une vie antérieure, rejouer ce qui s'est passé par le passé, on est au temps présent avec ces êtres-là. Et on peut poser des questions. Et moi, c'est drôle parce que je me rappelle vraiment ma première réaction quand j'ai connecté avec les guides, que moi, je percevais pas visuellement, mais j'avais l'impression que c'était comme très lumineux, très grand. Et puis j'avais le sourire, je sais pas, je me sentais connecté vraiment au niveau du cœur. Puis ce qui m'a surpris, ça a été la proximité que je sentais avec ces êtres-là. Au début, moi, j'avais la croyance, c'est les guides, c'est solennel, puis c'est comme...
C'est loin de nous,
oui,
c'est
oui, oui.
Brillant, là, beaucoup trop lumineux pour nous autres.
Oui, c'est ça. J'ai voyais, puis là, c'était vraiment une proximité. Je sentais vraiment une grande sagesse, mais je sentais beaucoup d'humour, beaucoup de proximité. C'était des amis qui nous aident, tu sais. Et ça avait été vraiment particulier. Fait que là, j'ai posé des questions. Puis même à un moment donné, j'ai vécu quelque chose de particulier. J'avais l'impression de recevoir une sorte de téléchargement d'informations que certains autres de mes clients ont déjà reçues.
Ouais, j'ai posé des questions. J'appelle ça des
ouais,
downloads.
Ouais, c'est ça.
Régulièrement, mais aussi en état d'éveil ou après la méditation.
Oui, c'est effectivement. Ça peut se passer à différents moments. Puis je l'ai vécu à ce moment-là. Puis j'étais pas capable de savoir c'était quoi. Mais j'avais l'intuition que c'était relié avec ce que j'allais bâtir éventuellement avec ça. Et donc, ça a été ma première expérience de connexion et ça a été vraiment...
Transcendant.
Oui, 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 vraiment une belle expérience.
OK. Ouais. Alors là, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui aimeraient ça, bon, entre autres, expérimenter? Parce que, tu le disais tantôt, je suis quand même pas pour dire au monde c'est extraordinaire, mais ça marche pas pour moi. Fait qu'on va y aller par étapes, là. Ouais. Pour qui ça marche, l'hypnose spirituelle? Est-ce que ça a marché pour moi? Ça a marché pour toi? Est-ce que ça peut marcher pour tout le monde?
Ça peut marcher pour tout le monde. C'est une question de prédisposition. Hein. C'est pas comme Mesmer, l'hypnose de spectacle. C'est juste un certain pourcentage des personnes qui peuvent accéder. Tu sais, et puis même des fois, il y en a qui disent, ah, ben, quand tu as de la fantaisie, donc l'incapacité à visualiser, il y a un tout petit pourcentage de la population qui a ça. Puis ils disent en hypnose, comme tu as le mentionné, on peut accéder à l'information, non, même si c'est pas visuel. T'sais. Fait que c'est pour ça qu'on peut accéder. Fait que tout le monde peut avoir la capacité, on a tous l'intuition, hein? On a tous la capacité à recevoir de l'information. Fait que tout le monde a la capacité de développer, de vivre l'expérience. Mais je te dirais même aujourd'hui, comparativement à avant, on entend beaucoup différents auteurs qu'on parle du phénomène d'éthérisation de la planète. Tu sais que le taux vibratoire de la planète augmente.
Oui, on va redire le mot éthérisation. Ça veut dire qu'on s'en va de plus en plus vers des fréquences éthériques. On s'élève en fréquence.
Oui, c'est comme si la densité, c'est comme si la distance avec le monde invisible, si on veut, est moins loin qu'avant un petit peu. Parce qu'auparavant, ce type d'expérience-là, c'était plus les chamans qui vivaient ça. C'était pas monsieur, madame, tout le monde. Puis aujourd'hui, c'est vraiment n'importe qui. Puis même comparativement à 40 ans avec Newton dans le temps, il faisait des inductions de 40-45 minutes. Aujourd'hui, on fait quelque chose 10-15 minutes, la personne part plus facilement. Fait qu'on est vraiment rendu à un stade de l'humanité on est de plus en plus connecté. Et c'est pour ça que pour moi, ceux qui jouent le rôle de médium, tranquillement, ça va être plus d'aider les personnes à connecter avec leur propre médiumité pour accéder à l'information.
Tu as tellement raison. Tu sais, de toute façon, médium, c'est un métier en voie de disparition. On est tous médiums. Alors, c'est effectivement le cas. Puis, tu sais, moi, je vais publier dans 3 semaines un livre qui s'appelle Connexion pour aider les gens, justement, à aller retrouver, puis connecter par eux-mêmes à la connaissance universelle par les différentes voies de ce qu'on appelle l'intuition. Puis, il y en a beaucoup plus qu'on pense, là. Fait que tu as tout à fait raison. Mais est-ce que tu penses aussi, parce que il y a une question de résistance là-dedans, puis de croyance, plus on s'ouvre, plus on s'éveille, plus on en parle, plus c'est accepté, moins il y a de résistance, puis plus c'est facile de basculer dans des états altérés de conscience.
Il y a ça, mais je te dirais, tu sais, pour nous autres aussi, ce qui est super important, faut être ouvert à travailler sur soi, faut être ouvert à évoluer, faut faire preuve d'humilité. Tu sais, plus qu'on est humble, plus on est ouvert à se remettre en question, plus les guides vont te donner l'information. Puis c'est pour ça que je dirais, ça c'est vraiment avec l'expérience que je l'ai vu. L'intention de la personne quand elle fait une séance va vraiment influencer ce qui vient. Si la personne vient dans une posture humble, dire « ben moi, je suis prêt à travailler, montrez-moi ce qui est important », puis ben là, les guides vont vous montrer des trucs qui aident. Mais si la personne vient en plus dans une posture de l'ego, dire « moi, j'ai hâte de voir, je veux voir qui j'ai été de populaire dans une vie passée », ben ça se peut même qu'elle se crée quoi, parce que c'est une demande de l'ego, puis ça c'est une projection égoïque. Puis en tant que praticien, c'est important d'être en mesure de reconnaître ça pour que la personne connecte vraiment à cette intelligence supérieure-là.
Je suis contente que tu abordes ça parce que dès le départ dans le livre, tu mets une mise en garde sur l'hypnose spirituelle qui a été pratiquée à toutes les sauces, puis ça a créé aussi des dérapes. Ouais. Et vous autres, vous avez un souci quand même de garder ça d'un point de vue très thérapeutique avec autant de sciences que vous êtes capable de trouver autour de ça, là. Mais c'est quoi les dérapes, là? Donne-nous des exemples de comment faire pour savoir si on a un bon thérapeute d'une part, puis si on est à la bonne place.
Oui. Les dérapes viennent de différentes. Ce qui est important quand je parle de dérapes, c'est pas les personnes n'ont pas des mauvaises intentions, c'est juste les compréhensions du processus. Parfois, ils vont stimuler des fausses mémoires, peut créer des fausses mémoires. Tu sais, je vais donner un exemple très simple, tu sais. Une personne qui est dans une vie antérieure, puis là, tu as le thérapeute, puis là, le sujet dit « je perçois une maison ». Tu sais, si le praticien dit « va dans la maison, tu me diras ce que tu perçois ». Mais dans la vie antérieure, on ne sait pas si elle est dans la maison. C'était l'intention, c'est l'agenda du praticien de dire « va là », mais peut-être que dans la vie antérieure, les personnes ont juste marché à côté de la maison. C'est pour ça que là, on vient de rentrer dans quelque chose qui n'est pas réel. On rentre dans du métaphorique, fait qu'on vient de quitter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'intéressant dans la maison, hein, mais c'est qu'on crée quelque chose qui vient plus du praticien. Fait que c'est vraiment l'art de guider sans influencer, sans imposer nos propres interprétations, nos propres croyances. C'est ça la dimension éthique et qu'on retrouve parfois pas assez, tu sais.
Est-ce que ça crée aussi ou ça peut aider, contribuer à la guérison physique? Parce que là, on a parlé de guérison psychique par rapport à des gens qui ont, entre autres, des défis relationnels avec une âme avec qui on se réincarne sans arrêt, mais la guérison physique là-dedans?
Oui, c'est super, je suis très content que tu poses la question, parce qu'effectivement, oui, Mais pour moi, c'est dans un deuxième temps. C'est même presque un bonus. La première guérison qui est la plus importante, c'est celle de l'être. Ouais. Pour moi, la première, si la personne vient avec une difficulté physique, c'est d'apprendre à être en paix alors que c'est encore là. Il ne faut pas que son bonheur provienne du « je vais être heureux juste quand je vais guérir ». Si la personne peut déjà être en paix puis comprendre ben, comment est-ce qu'elle a créé ça, peut-être cette situation-là, est-ce que ça a été choisi avant l'incarnation, y a-t-il des apprentissages à faire? Puis quand la personne accède à ces informations-là puis elle commence à faire la paix avec elle, ben déjà, on sait comment ça fonctionne le corps. Hein? Quand le corps est en paix, ben les processus de régénération s'enclenchent. Donc déjà là, ça peut mener à une guérison. Parfois, il s'est passé des choses. Hein? Parfois, il y a des douleurs. J'ai même, dans une formation, une personne qui a son cancer. Imagine, le cancer, parce que d'un fois, dans les séances, les gens reçoivent des soins puis la personne, le cancer... a disparu. Par la suite, c'est des gros cas, mais il ne faut pas dire aux gens, faites ça pour guérir.
Oui, c'est ça. Il ne faut pas arriver là avec cette attente-là.
Non.
Comme Joe Dispenza le dit régulièrement, tu connais Joe Dispenza, celui qui a écrit le pouvoir, dont en fait le placebo, c'est vous, qui est un neuroscientifique américain. Ben lui, dans ses séances, il amène les gens en méditation profonde, puis bon, il voit des guérisons spontanées. Moi, j'ai déjà vu ça aussi. L'idée, c'est de pas arriver là avec une attente de guérison spontanée, mais bien de compréhension des sources de nos défis dans cette vie-ci, entre autres, et les défis peuvent se situer à tous les niveaux, physique, émotionnel, mental, spirituel. Bref, d'arriver là pour mieux comprendre la source et pouvoir travailler dessus.
Ben oui, parce que ça peut avoir été choisi hein, avant de s'incarner qu'on va peut-être mourir de telle maladie pour X, Y, Z, tu sais, ça peut avoir... Fait que c'est pour ça que nous autres, c'est de dire, ben moi... Je préfère X, mais après ça, je fais confiance à la vie. Puis si c'est mon choix, si ça a été décidé que je meurs là, c'est OK. C'est pas la fin du monde.
Non, c'est pas la fin du monde, puis on le sait, on va revenir. Mais l'idée, là, dans tout ça, c'est quand même, moi, je dis tout le temps, si je reste sur cette planète présentement, maintenant que mes enfants sont élevés, j'ai écrit 12 livres, j'ai plus besoin d'être ici, là, tout est beau. Pourquoi je reste? Parce que j'ai envie de continuer à évoluer et avancer vers la version la plus pure, la plus maîtrisée, la version réalisée de l'être humain. Parce que plus je vais pouvoir en faire dans cette vie-ci, dans ma compréhension, bien sûr que c'est pas linéaire, ça se peut que je revienne avec d'autres défis dans une autre vie complètement différente, mais même si c'est pas linéaire, j'ai envie de découvrir jusqu'à quel point l'être humain peut se purifier, devenir tellement grand, tellement... En fait, l'être réalisé, c'est les exemples de grands maîtres, là, Jésus, Bouddha, Akhenaton, puis il y en a eu plusieurs autres, des grands sages sur cette planète. Plus récemment, Sri Aurobindo, Mikhaïla Ivanov. Alors, moi, la maîtrise, ça m'a toujours fascinée parce que je sais qu'il y en a un maître à l'intérieur de chacun de nous. Et je pense que l'hypnose spirituelle, entre autres, l'hypnose et toutes les autres approches qui nous permettent de se guérir, vont aider justement à déloger certaines croyances, certains blocages. Ça nous permet d'avancer.
Exactement. Puis même, on peut même accompagner les personnes qui sont en fin de vie, qui ont beaucoup de stress par rapport à ce qui vient après, ou même la famille. C'est de connecter avec cette point de vue sage-là, c'est ça qui apaise. Tu sais, c'est un processus qui apaise les liens, qui apaise tous les stress de la vie, parce que dans le fond, quand on connecte avec le point de vue plus sage, on a une autre compréhension qui nous aide à redonner un sens qui résonne dans notre cœur, si je peux dire ça comme ça.
Alors, en terminant, Jean-Charles, je remets ici le livre « Le potentiel insoupçonné de l'hypnose spirituelle ». C'est édité par la maison d'édition Le Jour, qui est la même que la mienne. Alors, Le Jour, qui appartient aux éditions de l'Homme. Jean-Charles Chabot, Isabelle Edeline, on trouve beaucoup d'informations là-dedans, mais c'est le fun de le lire, puis je pense que c'est important de le lire, c'est le fun de le vivre. Alors, en terminant, Jean-Charles, dis-moi donc, j'ai interviewé des gens que tu as formés, entre autres Stacy Tremblay au Lac Saint-Jean, comment qu'elle s'appelle, l'humoriste aussi, là, qui a été formé par toi, oh, j'ai un blanc. Mais elle fait aussi de l'hypnose spirituelle. Comment on fait pour trouver un hypnologue spirituel compétent au Québec et en France?
Oui, ben écoute, je te dirais, allez sur le site de l'école, assurez-vous qu'il y a vraiment... la personne a été certifiée. T'sais, pour moi, ça, c'est important. Qu'il y ait une certification, puis que ça soit une vraie certification, parce que parfois, ils vont juste demander de soumettre une étude de cas. Tu sais, pour qu'un praticien puisse vraiment savoir s'il fait du bon travail, il faut qu'il y ait un formateur qui a tout écouté une séance du début à la fin pour faire un retour. Enfin, je dirais à tout le moins une certification. Si l'école offre des supervisions en plus, c'est un gage de qualité. Parce qu'un des problèmes en ce moment, je vais juste terminer là-dessus, je vois le temps qui avance, c'est le problème en éclos spirituel, c'est qu'on enseigne n'importe quoi, on a deux responsabilités. S'assurer de transmettre des contenus de qualité, puis s'assurer que les personnes ont vraiment acquis ce qu'on veut transmettre. Puis c'est pas toutes les écoles qui mettent du temps et de l'argent pour ça. Fait que c'est important juste de vérifier, donc, à ce niveau-là, s'assurer que les écoles font des certifications de qualité.
OK, puis sur le site de l'Institut international de l'hypnose spirituelle, est-ce qu'il y a des praticiens qui sont suggérés?
Bien sûr. Si vous allez sur notre site, on a un annuaire, puis vraiment, tu sais, c'est des personnes, c'est presque une initiation, là, suivre, oui. être certifié pour nous. Parce que pour nous autres, c'est vraiment important que les gens qui viennent chez nous sont vraiment qualifiés. Donc, vous pouvez trouver des personnes là sans problème.
Je termine juste avec un petit commentaire. Merci, très intéressant. On est d'accord, c'est très intéressant, je dirais même plus passionnant. Alors, merci Jean-Charles Chabot. Bon succès avec ton livre, avec
l'école. Merci, France.
Et aussi avec la formation de praticien, parce que vous avez vraiment upgradé votre formation pour les gens qui seraient intéressés à suivre une formation d'hypnologue en hypnose de régression. Et il y a une cohorte qui a commencé récemment, mais il y en aura d'autres, je présume?
Oui, c'est ça. Ben, puis je vais vraiment rapidement. Là, maintenant, on a changé de format. C'est quelque chose qui a été développé avec Isabelle, justement, avec des améliorations. Puis maintenant, ça dure 8 mois. C'est okay. Des formations de 8 mois. Fait qu'on part 3 cohortes par année. On vient d'en commencer une. Fait qu'il y en a 2 autres qui s'en viennent.
Alors, je vous invite à aller sur le site de l'Institut de l'hypnose.
International
de l'hypnose spirituelle. Merci. Je vais mettre les coordonnées. Merci tout le monde. À très bientôt. Et surtout, merci de partager les entrevues que je fais sur la page de l'Institut de la santé consciente parce que c'est gratuit. Puis nous autres, on fait ça pour que vous puissiez vous informer gratuitement à des sources intéressantes et fiables. Ciao tout le monde.
Merci. Au revoir.
Un beau sujet qui m'intéresse. Ça, c'est les autres commentaires. Ciao.